Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, le cinéma. Ce soir, Thierry Chaise et Julien Gester se font face à notre affiche d'une pierre deux coups, Fejria Deliba, et le fils de Joseph, d'Eugène Green. Nous évoquerons aussi plus rapidement Les malheurs de Sophie de Christophe Honoré et Everybody Wants Some de Richard Linklater. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des coffrets Michel Onfray, Contre-histoire de la philosophie, volume 25, La résistance au nihilisme de Pierre Bourdieu à Vladimir Yankelevitch, un coffret de 12 CD coédité par France Culture et l'Université Populaire de Caen. Enfin, nous avons rendez-vous avec la plasticienne Orlan qui est toute cette semaine l'invitée de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec D'une pierre deux coups, le premier long métrage de la comédienne Fejria Deliba, dirigé au théâtre par Antoine Vitez et au cinéma aussi notamment par Jacques Rivette. Nous allons dans ce film rencontrer Zayan qui à 75 ans s'occupe toujours de ses 11 enfants qui n'ont pour la plupart jamais vraiment coupé le cordon. Un faire-part de décès va bousculer son quotidien et la faire sortir de sa cité.
Vous détenez une carte bancaire Mastercard proposée par la banque postale ou non, votre... Et ça, c'est la rente pour l'accident de ton mari. Et si on partait en voyage pour mon anniversaire?
Pour de quoi?
T'as jamais dépassé les frontières de la cité?
J'ai pas besoin de déplacer la frontière. Pourquoi faire? Ça me suffit comme ça.
Maman? Maman, c'est Marcel. Je vais manger avec toi, là, j'ai pas trop le temps. Maman?
Laisse le message. Comme ça, je rappelle.
Aïe. Maman, c'est moi.
Mais vas-y, double.
Elle est où, maman?
Décroche.
Il y a un truc grave, dites.
Bah, qui fait qu'il peut me prêter 50 euros? Il y a le taxi qui m'attend, on va prendre pas la carte.
Quel est le problème exactement?
Elle a disparu, c'est pas son genre.
Non, ça j'ai compris, mais
elle a laissé un mot, un message.
Si, elle a laissé un mot.
Ouais, c'est son style.
Elle a écrit avec du couscous dans le frigo.
Regarde, Anne.
C'est quoi ce film? Où tu l'as trouvé?
Waouh, c'est toi ça?
Mais c'est qui ce type? C'est pas papa?
On n'a pas le droit de fouiller dans les affaires de Mimi.
Tu crois que papa était au courant? On devrait être contente de savoir que notre mère a une histoire d'amour.
D'une pierre deux coups sort demain au cinéma. Premier regard de Thierry Chaise sur ce film.
C'est un film que j'ai beaucoup aimé, pour commencer. C'est une réalisatrice, parce qu'elle était réalisée d'un court-métrage au début des années 90. Donc elle a mis le temps pour faire le long-métrage, un court-métrage qui avait eu beaucoup de succès d'ailleurs. Donc généralement on enchaîne. Et puis elle a écrit, rien ne s'est fait jusqu'à cette écriture-là, qui est donc le portrait d'abord d'une mère de famille d'origine maghrébine, qui est donc, comme on l'a entendu, la bande-annonce, jamais sortie vraiment de sa cité. Et puis un événement, à savoir se faire part, et le passé qui va remonter à la surface va lui faire un premier voyage. Elle le fait en compagnie d'une amie, jouée par Brigitte Rouen. Moi, j'ai été très sensible à cette partie-là déjà du film, parce qu'il y en a une deuxième avec la famille, parce que je trouve que ces personnages de mère, justement, sont très souvent, quand elles sont montrées dans le cinéma français, à part le récent Fatima, elles sont montrées souvent sous l'aune uniquement de la souffrance. C'est-à-dire qu'on voit rarement ces femmes avec leur histoire d'amour, avec leur questionnement autre que justement sociaux. Et donc là, d'un seul coup, il y a une histoire façon, on se croirait pas dans ce rôle de Madison quasiment, dans ce passé qui ressurgit. Donc je trouve ces moments-là très beaux. Et puis, il y a le contrepoint, qui est donc cette famille qui n'attend pas Godot, mais qui attend la mère. Mmh. Les enfants sont très nombreux. Et dans cette démultiplication d'enfants, il y a une démultiplication aussi des points de vue sur les questions de société qui vont nourrir le film, des questions du voile, tout ça. Et je trouve qu'il y a une idée d'un seul coup, alors qu'il y a un côté très émouvant, très mélodramatique quasiment dans le parcours de la mère, il y a chez les enfants un côté, ce qu'on a aimé dans la comédie italienne, ça crie, ça hurle, ça se dispute, ça discute. Et ce mélange-là, qui pourrait être tout à fait artificiel, fonctionne très bien. Il fonctionne parce que je trouve que c'est filmé avec une empathie, parce que c'est joué avec un enthousiasme total, et parce qu'elle trouve justement dans ces scènes, où à un moment on est dans la cuisine avec 10 personnes, une manière de raconter ça. Donc voilà, j'ai, à la fois par son humour et par son extrême sensibilité, c'est un film qui m'a beaucoup parlé. Je me dis que c'est bien qu'elle soit enfin passée au long métrage.
Bon, on va revenir creuser ce point de vue après avoir écouté Julien Gester.
Je suis à peu près aussi séduit par le film que l'a été Thierry Chaise. C'est un premier film qui a évidemment des fragilités, qui présente des aspects qui pour moi sont peut-être plus démonstratifs que d'autres. Et en même temps, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un... Je trouve, alors que c'est un film très... tenu et en même temps très ténu dans ses effets et dans son écriture et dans ce qu'il déploie en termes de narration, il y a des choses, il arrive à accéder à une ampleur qui pourrait peser trop lourd peut-être sur lui, sur la durée d'un film d'une heure 25 comme ça, ce qu'il déploie dans cette cuisine qui devient un creuset de tous les devenirs presque possibles, et en même temps parce qu'il y a 11 enfants, tout ça s'étale et accède à suffisamment de nuances pour qu'on n'ait pas uniquement affaire à des stéréotypes de tous ces devenirs possibles de ce que peut être une deuxième génération d'immigration algérienne. C'est la mère qui est arrivée d'Alger et qui a eu ensuite tous ces enfants-là, et dont on comprend par... Il y a de vraies idées, une séquence de messages téléphoniques ininterrompus, une litanie de messages laissés par tous les enfants. En gros, en une séquence comme celle-là, alors que la mère, soudain, est saisie et presque frappée par autre chose et traversée par autre chose, combien... À quoi ont pu ressembler des décennies entières, en fait, d'existence entre les quatre murs de cette cuisine où elle est seule et à l'évidence toute cette marmaille, mais qui est devenue adulte et qui a emprunté à chaque fois pour chacun de ses membres des voies différentes, a pu vivre adossée à elle. Et quand elle s'échappe, donc tous ces gens vont se retrouver et vont faire vivre un creuset de plus en plus bouillonnant et de plus en plus saturé aussi de visages, d'identité, d'échanges. Et en même temps, le film oppose... Parce que, comme disait très bien Thierry Chaise, il y a deux films en un, oppose cette ligne de fuite, qui est une ligne droite vers le passé, qui est un passé qui n'est pas que le sien, puisqu'on lui met en miroir le passé aussi des gens avec qui qu'elle a connu en Algérie avant l'indépendance, qui ont eu un devenir tout à fait différent, qui ont eux aussi laissé des souvenirs de la mélancolie, et l'ont eux aussi laissé dans des boîtes, ont mis un couvercle dessus, et n'ont pas eu laissé cette matière-là mûrir de la même manière. Et je trouve que le film, c'est peut-être là que je me séduis le plus, il y a quelque chose de très beau dans cette échappée, avec le personnage de Brigitte Rouen, qui est un des points, je parlais un peu des fragilités du film, peut-être un peu à... Je trouve Brigitte Rouen souvent merveilleuse comme actrice, elle l'est là tout à fait, mais le personnage est peut-être le plus ingrat, au sens où on essaie de le faire exister avec un secret, mais qui en même temps n'emmène pas, qui sert assez habilement à éclairer aussi quelque chose du personnage, en disant que voilà, c'est pas juste... en donnant le personnage peut-être sous un angle qui n'est pas uniquement positif, en lui donnant dans sa complexité aussi, qui vient de ce qu'est son héritage, son histoire culturelle. Mais ce qu'il y a de très beau dans cette échappée, c'est quand par exemple, celle dont on nous a dit, on l'a entendu encore dans la bande-annonce, vous le redisiez, qu'elle n'est jamais sortie vraiment de sa cité, qui je crois vers Orléans, c'est pas tout à fait dit, il me semble... contemple des paysages cheminant vers Cheverny, il y a quelque chose de la première fois, on a l'impression qu'elle a pu arriver vraiment, sans que ce soit dit véritablement par le film, mais il y a malgré tout quelque chose qui se joue, sans que ce soit démonstratif, d'un peu d'une épiphanie, va face à un paysage que vraisemblablement elle a peut-être croisé rapidement en arrivant en France et pour aller être parquée dans cette cité où elle a eu tous ses enfants et sans doute n'en plus jamais sortir. Il y a quelque chose de l'épiphanie de aussi de cette cinéaste qui filme pour la première fois depuis 25 ans et qui fait ce film-là après tout ce temps et qui peut... On sent qu'il y a une jouissance à explorer différents registres entre évidemment l'enfermement de cette cuisine et puis voilà. Et puis il y a aussi il y a cette actrice qui initialement évidemment n'en est pas une et qui je crois qu'elle l'a cherchée longtemps avant de la trouver, qui n'est pas du tout le personnage puisque il y avait un scénario écrit précis etc. Mais qui d'ailleurs d'origine marocaine je crois contrairement au personnage. Et ce qui est très beau c'est comment dans ces plans qui sont très, très délicats, il y a une vraie sensibilité de filmeuse, même si ce n'est pas une mise en scène d'une ampleur et d'une sophistication peut-être qui s'affiche. Comment toutes ces premières fois se confondent dans quelques plans comme ça que je trouve très émouvant.
Alors moi, j'aurais voulu commencer par là, effectivement, par Miloud Achakik, qui est cette interprète, qui joue donc le rôle de cette matriarche, Zayane. Peut-être dire, juste avant que Fejria Deliba, moi, quand j'ai vu le nom, je ne savais rien du film quand je l'ai vu, mais je me suis dit, mais je connais ce nom. Donc effectivement, j'ai été retrouver La Bande des Quatre de Jacques Rivette, qui n'est quand même pas n'importe quel film, avec notamment Bulogier, avec Nathalie Richard, et que on va retrouver un peu plus tard, puisque le générique fin nous apprend que Nathalie Richard, elle a coaché Miloud Achikak pour ce film, donc appelé par sa camarade de jeu Fejria Deliba, mais c'est vrai que cette interprète principale, elle a quand même un magnétisme, une assurance, une façon de délivrer comme ça des phrases très, très lapidaires, hein, le plus souvent, le fameux « je vais, je reviens », en fait, c'est bien, Julien Gester, surtout en rentaine. Mais non, mais c'est vrai que le reste de la distribution est, cela dit, à l'avenant. Alors, pour corriger certaines choses, les deux aînés, hein, les deux grands garçons, eux, ils sont nés en Algérie parce qu'ils ont quand même de très vagues souvenirs. Et puis, reste de la famille, de la fratrie, était conçu à Olivet, je crois précisément, banlieue d'Orléans. Ce qui est formidable aussi, c'est que le scénario n'est pas de ceux prévisibles dont on imagine très bien le déroulé une fois les cinq premières minutes du film passé. Je trouve que là, il y a des vraies surprises, il y a un vrai équilibre. Tout ça en 1h20, c'est un film qui est vraiment... qui est assez resserré, mais qui propose en effet à la fois ce road movie, à la fois ce huis clos, ce qui sont deux genres aussi cinématographiques et de mise en scène plutôt plutôt très tranchés d'habitude. Et là, je trouve qu'il y a une belle fusion. Moi, je la trouve meilleure dans le huis clos. J'avoue que j'étais très très sensible à cette famille qui est là, plus Adélaïde Leroux, qu'on est heureux de revoir depuis Flandre, de Bruno Dumont et quelques autres films depuis. Mais voilà, il y a quand même une qualité de jeu que je trouve très, très, pas étonnante, mais très, très, très en place. Moi, j'ai été absolument emporté par ce film. Enfin, j'ai pleuré à la fin, tout ce qu'il faut. J'ai été complètement saisi et je m'y attendais guère, à vrai dire.
C'est
richesse.
Oui, et puis c'est très beau parce que c'est aussi... On parlait de bande des cadres rivettes, mais c'est sa bande, en fait. C'est des gens avec qui elle a travaillé d'une manière ou d'une autre. Elle explique qu'elle a envoyé, avant même presque qu'elle envoie le scénario, tous ces gens ont envie de la suivre.
Pour les enfants de... Voilà.
Pour les enfants, exactement. Et je trouve
Zayane.
Il y a quelque chose chez cette... Même quand elle arrive, il y a une lumière d'actrice qui transparaît dans le film. Alors, parfois, c'est injuste, on n'a pas. Et je trouve qu'elle, il y a une espèce de grâce qu'on trouve là. Et je pense aussi qu'il y a ce travail, elle explique très bien qu'elle a vraiment appris ce métier de jeu et de mise en scène aussi chez Vitesse. Elle était à l'époque avec Dupontel, qui était son meilleur ami, c'était ensemble. Et on a l'impression que toutes ces années, voilà, d'apprentissage sortent d'un coup. Et comme vous le disiez très bien, Julien Gester, il y a une épiphanie globale, je trouve. Les chemins se croisent au pile au bon moment. Voilà. Et c'est ce qui fait, je trouve, tout le charme du film.
Voilà. Vous avez été séduit, Antoine Guillon ?
Oui, beaucoup. Notamment, justement, parce que le film échappe à beaucoup de travers qu'on aurait pu craindre. Ne serait-ce que l'utilisation des films en Super 8, qui est devenu un peu une tarte à la crème de tout ce cinéma qui voudrait évoquer le passé en émouvant. Et là, c'est la matière même du film qui parle et qui devient un sujet de scénario. Donc, ces apparitions, on y croit complètement, d'abord. Et souvent, c'est pas très bien fait. Là, on est complètement dedans. Et on est très ému par ce qui s'y passe. passe parce que c'est habité, parce que sont devenus les personnages depuis. Et effectivement, on est dans une histoire de comment échapper à l'assignation en général, ne serait-ce qu'au rôle de mère que tous vos enfants vont vous donner, au rôle que les enfants eux-mêmes ont, comme vous l'aviez dit, Julien Gester, on aurait pu craindre justement l'échantillon représentatif de toutes les façons d'être issus de l'immigration. Et justement, les personnages eux-mêmes ont la complexité qui fait qu'ils vont y échapper, que ce n'est pas les personnages les plus progressistes, par exemple, ne seront pas forcément ceux qu'on attendait au départ dans le rôle qui aurait dû leur être assigné. Et cette façon de joindre le refoulé de l'histoire familiale, c'est-à-dire qu'on veut pas que maman ait une sexualité, c'est absolument tabou.
Une vie amoureuse.
Oui, mais une vie amoureuse, une sexualité, qu'elle soit une femme, tout simplement. Mmh, ouais. Et le refoulé même de l'histoire nationale, c'est très subtilement allié. Mmh. Et en fait, ça dit beaucoup de choses sur comment les questions, effectivement, de l'histoire nationale sont reliées aussi à des questions psychanalytiques profondes.
Jean Gester.
Mais non, mais pour revenir sur quelque chose qu'évoquait à l'instant Antoine Guillot, il y a des scènes très belles dans l'appartement aussi. Je parlais essentiellement de celle de la partie road movie, mais ces scènes de projection sur le mur, donc de films Super 8, dont on comprend que ça a été à la fois le réceptacle d'une mémoire, mais aussi plus ou moins des lettres d'amour échangées à un moment donné par ce personnage avec quelqu'un. C'est très beau comment à la fois cette image s'impose, évidemment, c'est qu'à travers cette image-là que finalement ces enfants, cette deuxième génération, va avoir accès à une dimension. Alors que c'est une image aplatie, un peu passée évidemment, qui a perdu de ses teintes, qui est projetée en plein jour
sur du papier peint,
précisément sur les murs de ce qui a été la plus ou moins la prison, en tout cas.
Oui, d'autant que c'est la chambre à coucher.
Et de cet amour et de
des parents
évidemment. Mm-hmm. et de cette existence.
Mais tout ça est très finement, voilà. On met des mots alors qu'il n'y en a pas du tout.
Mais
il y a
un feuilleté vraiment de signes, de sens, et qui est très délicat, je trouve, là-dedans. Ouais. Et ça produit une image très simple qui se passe de commentaires et qui est réellement émouvante.
Ouais. Ouais. Bon, on a mis beaucoup de mots sur un film qui, lui, s'en sert peu, parce que
mais
voilà, il y a une grâce quand même.
Hein. Non, mais néanmoins, il faut le dire, c'est justement pour revenir sur cette actrice, elle a cette intensité-là, elle imprime quelque chose à l'image, mais c'est très impressionnant comment elle s'empare aussi du texte.
Complètement.
C'est-à-dire
que
c'est un personnage qui est campé comme semi-analphabète, qui a une difficulté à lire, à écrire, mais aussi dans certaines situations à s'exprimer en français, et qui, on devine que c'est, évidemment ça recoupe pas forcément totalement l'actrice qui la joue.
Visiblement.
Mais il y a une maîtrise, économie jusque dans, mine de rien, des choses qui relèvent vraiment de tirades au long et qui ne sont pas qui ne tombent pas du tout dans le commentaire de la situation, qui produisent vraiment quelque chose de très fort. Enfin, on sent précisément que la cinéaste vient aussi de ce théâtre dont on parlait, et
il y a un poids des mots,
certains cinémas, mais on est très loin d'un cinéma, disons, de naturaliste improvisé où la parole un peu fait son lit comme elle veut dans les scènes, dans les situations. On sent qu'il y a une économie et une minutie de ça qui est assez saisissante.
Bon, on est d'accord, on est saisi, on est séduit, on est admiratif devant D'une pierre deux coups de Fejria Deliba, qu'on vous invite très vivement à aller voir le plus tôt possible, puisque le film sort demain sur les écrans français.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure du Fils de Joseph, le nouveau film de Jeanne Green. Avant cela, on va retrouver l'invité de La Dispute, la plasticienne Orlan. Nous évoquerons aussi plus rapidement Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré et Everybody Wants Some de Richard Linklater. Everybody Wants, la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute par Antoine Guillot. « C'est à vous, cher Antoine.
Merci, Arnaud Laporte. Entre Wi-Fi défaillant et présence en masse des intermittents du spectacle, la conférence de presse de la sélection officielle du Festival de Cannes 2016 ne pouvait rompre plus nettement avec l'atmosphère de la précédente, estimez-vous, Julien Gester, dans Libération. Pierre Lescure, fraîchement nommé président, s'était alors efforcé de jouer sur du velours et de montrer les muscles, manifestant son aise dans son nouveau costume, tandis qu'il se livrait à l'énumération goulue d'un chapelet de nouveaux partenariats archi-juteux avec des multinationales du luxe et de la banque, rien de tel jeudi matin, où un certain profil bas semblait de rigueur. Dans leur numéro désormais bien rodé de duettistes, Thierry Frémaux et Pierre Lescure, respectivement délégué général et donc président du Festival de Cannes, s'étaient visiblement passé le mot, estime de même Isabelle Régnier dans Le Monde. Il s'agissait d'apaiser, de pacifier, de rassurer, car plus qu'aucune autre, cette 69e édition s'annonce comme une route piégée. Première embûche, les intermittents qui ont ouvert le bal en exprimant sur scène leur hostilité à la loi El Khomri, leur angoisse quant à l'avenir de leur régime de protection sociale, leur solidarité avec tous les précaires avec ou sans papier, brandissant en conclusion la menace d'un blocage des festivals à venir. Deuxième danger et pas des moindres, le risque terroriste qui pèse sur le festival. Selon Thierry Frémaux, le dispositif préventif ferait l'objet de nombreuses réunions politico-administrativo-policières pour concilier au mieux sécurité et esprit de liberté. Troisième piège, enfin, la sélection officielle elle-même, dont il convenait de restaurer le prestige après les affronts subis de toutes parts l'année dernière. Des cinéastes relégués, entre guillemets, à un certain regard avaient rejoint la quinzaine des réalisateurs. Des journalistes relayés par la twittosphère avaient largement commenté la place nouvelle que semblaient prendre les sponsors dans l'organisation du festival. Des critiques avaient estimé que la programmation semblait basculer davantage du côté de l'industrie que de l'art. Ne boudons pas notre plaisir, se réjouit Le Monde. Le cru 2016 fait assez envie, comme par l'effet d'un rétropédalage contrôlé. Les grands auteurs étoilés font un retour en force dans la compétition. Et si le millésime 2016 était une bonne année, se demandent déjà Bruno Hichard et Louis Guichard sur Télérama.fr, qui salue une sélection solide à tout point de vue, comme si le délégué général Thierry Frémaux avait voulu, davantage encore que les années précédentes, démontrer que Cannes reste le festival qui exerce la plus forte attirance sur les cinéastes prestigieux. Serge Kaganski explique sur le site des Inrecuptibles pourquoi il faut se réjouir de la sélection quand Libération salue de l'audace. Malgré l'effet de déjà-vu, le profil des heureux élus suggère sur le papier des choix résolument plus aventureux que ceux qui avaient présidé à la très frileuse et, selon vous, Julien Gester, entre autres, assez désolante compétition 2015, une édition marquée par un repli sur les valeurs du tiroir caisse. Si elle ne compte que des cinéastes confirmés, la sélection française semble composée à cette aune plus hardie et en cela sans doute un rien moins bankable. Il faut dire, comme le notait Aurélien Ferenczi sur son blog de Télérama Sinécure la veille de l'annonce de la sélection, que c'est sur les films français que le suspense dure jusqu'au bout, que rien ne fuite ou presque. Depuis deux semaines, les rumeurs se multipliaient, la profession, pour une fois presque comprise, ne parlait que de ça. Tel producteur aurait conclu un accord secret avec telle section, son film était pris, c'est sûr. On se renseignait, le comité ne l'avait pas encore vu, donc ce n'était pas sérieux ce bruit. Et puis on réfléchissait, l'accord avait pu avoir lieu avant visionnage, où le producteur avait pu croire de bonne foi qu'accord il y avait quand il ne s'agissait que de vagues promesses de l'un ou de l'autre. Tout était possible, d'ailleurs on avait tous des infos secrètes qu'il ne fallait révéler sous aucun prétexte et qui s'avéreraient fausses à 90%. Quoi qu'il en soit, constate Libération, Bruno Dumont et Thierry Frémaux ont semble-t-il réglé les différends, qui avaient vu le premier menacé dans ses colonnes, le second de lui en coller une et celui-ci s'en émouvoir bien légitimement. Les bisbilles du cinéaste et du sélectionneur en chef de Cannes étaient parties, semble-t-il, d'une part d'une assertion de Frémaux, contestée par Dumont, selon laquelle il l'aurait vu, petit quinquin, et choisi sur pièce de ne pas le retenir, d'autre part par l'absence de motivation du rejet d'un précédent film. La même fâcherie va-t-elle avoir lieu cette année entre Thierry Frémaux et Bertrand Bonello? Interrogé par un journaliste sur les raisons de l'absence sur ses tablettes 2016 de son très attendu Nocturama, un film qui évoque notamment des attentats perpétrés en plein Paris, Frémaux a laissé entendre qu'il n'aurait tout simplement pas vu le film. Une hypothèse que contredisent les informations de Libération, corroborées par Bertrand Bonello, qui, comme l'a relevé Étienne Sorin dans Le Figaro, lui répond sur sa page Facebook: « Pour qu'il n'y ait pas de doute, je confirme que le film a bien été vu par le comité. Est-ce le sujet sensible de Nocturama, d'abord intitulé « Paris est une fête » sur une bande de jeunes terroristes non djihadistes, précise le Figaro, qu'il a écarté de la sélection. Une belle polémique en perspective. Bonello écarté, le sélectionneur a laissé ouverte l'hypothèse d'un cinquième champion, qui pourrait aussi être, selon Le Monde, Katel Kilevere, Rebecca Zlotowski ou Arnaud Despalières. Côté parité, la Britannique Andrea Arnold avec American Honey porte le nombre de femmes en compétition à 3, contre le Figaro, un chiffre sans doute raisonnable, puisque Frémaux n'a pas droit à la question rituelle sur la faible représentation des réalisatrices. En revanche, la journaliste de la Repubblica s'étonne de l'absence de films italiens. Les journalistes indiens, égyptiens, mexicains et chinois enfoncent le clou. Thierry Frémaux leur répond polinement que Cannes n'est pas l'UNESCO. Bref, conclut Libération cette année encore, on ne devrait pas s'ennuyer si, évidemment, le festival a bien lieu.
Bon, on verra s'il a lieu. Bon, s'il nous évite des Italiens pour une fois. Enfin, ça dépend lesquels. Hein.
Il y a un Bellocchio qui est prêt. Hein.
Oui. Ouais. Si je peux me permettre. Le...
Julien.
J'ai commencé par pouffer, évidemment, comme de tradition, lorsque, comme de tradition, tous les correspondants de la presse étrangère à Paris se sont levés les uns après les autres.
Alors les Mexicains, alors les Chinois.
Voilà. Mais le fait est que la question portait, dans le cas du cinéma italien, et Dieu sait si le cinéma italien a pu nous faire souffrir en compétition par le passé, sur le fait qu'il y a quand même, depuis quelques années, une jeune génération de nouveaux auteurs italiens qui s'affirment, qui a du mal à faire ses films, mais ses films existe malgré tout pour un certain nombre d'entre eux et qui cette année, alors que le cinéma italien était représenté, on pourrait presque dire surreprésenté par exemple l'année dernière, était totalement cette année absent de la sélection officielle, en tout cas de la compétition. Et la bonne nouvelle, c'est que par exemple quelqu'un qui avait fait un film aussi étonnant et je trouve prometteur que L'été de Giacomo il y a quelques années, Alessandro Comodine, à un nouveau film, et que on a appris hier qu'il ferait donc il serait à la semaine de la critique.
Très bien. Bon.
Donc on le verra tout de même quelque part à Cannes.
Oui. Puis quand Gianfranco Rosi aura eu des prix dans tous les festivals du monde entier, peut-être qu'il aura le droit de venir à Cannes.
Bah, il est président d'un jury du documentaire.
C'est vrai.
Il sera là.
Bon. Il sera là. Ça sera
il
encore
sera
mieux.
Physiquement.
Ça sera encore mieux avec ses films. Enfin, il n'en sort pas non plus si souvent que cela. Ce qui est drôle pour les histoires, tout le monde ment à tout le monde quand même. Il faut quand même dire les choses avant le festival de Cannes. Et non, alors ce qui est drôle, c'est que le Thierry Frémaux apparemment ment de façon différente selon les fois. Des fois il refuse Petit Quinquin parce qu'il l'a vu alors qu'il l'a pas vu. Là il refuse Nocturama parce qu'il l'a pas vu alors qu'il l'a vu. Donc c'est à géométrie variable. Thierry Chaise.
Habituellement il refuse. C'est la première. D'habitude quand il y a ce genre de question, il dit je ne commande pas la sélection, surtout pas les films que j'ai pas vus. Donc on a l'impression qu'il fait ça presque sur le côté j'ai pas vu, je l'ai vu, j'ai vraiment détesté. Donc plutôt qu'être, je vais être poli et dire je l'ai pas vu.
Ah oui.
Et il est repris. Oui. Parce que je pense que Bonello qui est fait partie des habitués, tout ça, sur ce sujet-là. Si, en effet, le comité l'a vu, s'il y avait eu un début d'enthousiasme, il y serait. Donc moi, j'ai presque l'impression d'une politesse qui se transforme en gifle. Quoi.
Voilà. Bon, on va dire ça comme ça, Antoine Guillaume.
De toute façon, c'est infernal pour le Festival de Cannes, parce que le nombre de places étant limité, il a tout à fait le droit de faire des choix, mauvais ou pas. Donc quand un film n'est pas pris, il a tout de suite mauvaise réputation en disant « Oh, il doit être bien raté parce que Cannes ne l'a pas pris ». Après, quand on le voit, qu'on le trouve bien, on va dire « Mais comment le Festival de Cannes a-t-il pu laisser passer un chef-d'œuvre pareil ?» Donc voilà, de l'un dans l'autre, ça fera toujours de la polémique, bon. Ça fait parler des films, c'est bien.
Et donc 3 femmes sur 20, ça suffit alors, Julien Gester. C'est le bon nombre selon le festival.
Mais pourquoi est-ce que vous...
Je fais tourner la parole, Julien. Parce que vous n'en parliez pas dans votre papier sur Cannes.
Vous pensez que c'était mon dossier. Ouais, non, mais parce qu'on en parle, tous les ans.
Non, mais je sais, c'est pour ça que je vous relance.
C'est suffisant, non, évidemment. Non. Enfin, c'est après, on ne peut pas... La question se pose pas tout à fait dans les mêmes termes que quand on parle de la question de la diversité aux Oscars, puisque il y a un nombre, le festival fait malgré tout avec la production, malgré tout, et néanmoins le festival a un rôle à jouer comme les diverses cérémonies récompenses, c'est-à-dire que dans le sens où il booste des carrières, où il fait exister des gens plus fortement, où il permet à d'autres films de se faire, il a un rôle à jouer dans la diversité, que ce soit vis-à-vis des femmes ou des minorités à l'intérieur du cinéma. Après, il peut faire avec ce qu'on lui offre, et le fait est que les problèmes pour beaucoup, enfin c'est une ligne de défense du festival qui a ses limites, mais sont souvent en amont. Évidemment, c'est un fait qu'il y a moins de femmes qui réalisent des films, qui accèdent à la réalisation, qui accèdent à certains postes que d'hommes. Dans le cas des Oscars, la question était vite réglée. Le problème, au fond, le premier problème à régler, c'était peut-être déjà la représentation, l'écart de représentation, non pas entre les votants et la société américaine, mais ne serait-ce que l'écart de représentation entre les votants et la réalité de la représentation des minorités à l'intérieur de l'industrie,
absolument,
qui était évidemment plus avant, beaucoup plus avancée, etc. Aujourd'hui, il faudrait regarder l'organigramme exact du festival. C'est un fait que c'est globalement toutes les sélections sont dirigées par voilà, des mâles blancs autour de la cinquantaine. On pourrait trouver à redire dans les comités de sélection, il y a des femmes, est-ce qu'elles sont assez nombreuses? C'est peut-être aussi de là, de ce côté-là, qu'il faut chercher.
C'est vrai que le festival, c'est aussi d'autres sélections. Par exemple, Justine Trier ouvrira aussi la semaine de la critique avec son film. Donc, la représentation des femmes se fait. Et Mustang, l'année dernière, était à la quinzaine. La guerre est déclarée. Enfin, il y a des exemples. Voilà, c'est beaucoup. Elles sont beaucoup plus présentes, généralement, en termes de pourcentage, dans les sections parallèles.
Mais le fait est que la compétition est l'endroit le plus exposé et l'endroit qui bénéficie le plus aux films quand ils sont réussis, évidemment.
Et inversement. Et un cinquième film français, vous y croyez, Thierry Chaise, dans la compétition?
Pas beaucoup.
Non,
je crois pas beaucoup, mais il y a des gens dont on avait parlé avant, comme Emir Kusturica, par exemple, qui n'est plus réapparu du tout. Et je me dis que c'est le genre de personne qui doit être encore en train de monter, qui peut, puisqu'il a eu deux palmes, avoir le privilège de montrer son film dernier moment.
Ken Loach déjà, donc ça va quand même.
Non mais voilà, c'est le seul nom un peu voilà d'habitué dont on parlait beaucoup et puis qui n'a plus figuré à l'arrivée.
Ça va être compliqué cette année parce qu'il y a déjà 20 films choisis en compétition. Généralement, quand il y en a que 18 ou 17 annoncés,
qu'il y en a qui arrivent.
On s'attend aux surprises, mais on peut toujours embouteiller le festival.
Mais après, le réglage de dernière minute a ce mérite qu'il ne fait pas l'objet d'une conférence de presse. Parfois, ça permet de faire rentrer des choses sur lesquelles on ne souhaite pas particulièrement répondre à des questions.
Comme des packages.
Justement, alors que voilà, on présente une sélection qui a une tête, qui présente un certain équilibre, etc. Et hop, on fait rentrer quelque chose par la fenêtre.
Qui a été dealé avant, mais qui arrive après.
Et qui derrière peut récupérer la Palme d'Or.
Oui, ça peut arriver aussi. Bon, parlons des films qui n'auront pas la Palme d'Or. Everybody Wants Some, Palme d'Or, de Richard Linklater.
Et c'est le nouveau film donc de Richard Linklater. Après Boyhood, cette aventure est allée sur 12 ans avec les nominations aux Oscars qu'on sait et le
succès. Un des plus beaux films des dernières années quand même.
Donc on dit comment est-ce qu'on on replonge, on retrouve l'aspiration après ça.
C'est un film en 12 jours.
Dans le cas de Linklater, en tout cas, lui, sa solution, ça a été de replonger dans sa jeunesse et il signe le portrait d'une époque, en tous les cas des années 80, comme il les a vécues, avec un sens vraiment aigu, je trouve, la nostalgie joyeuse. C'est une bande d'étudiants qui sont membres de l'équipe de baseball de leur fac, quelques jours avant leur entrée. Ça peut être vu comme une suite de Génération Rebelle, le film qu'il avait fait dans les années 90, qui est resté inédit en France, mais qui avait vu débuter les tout jeunes Ben Affleck et Matthew McConaughey, gay, je sais plus comment on dit. En tous les cas, je trouve qu'il y a une... il utilise vraiment son vécu pour raconter, sans enjoliver ce passé-là, qui a une beauté très apaisante des images et qui contraste assez subtilement avec le regard mordant que Linklater porte finalement sur lui-même, à travers ses athlètes mâles de 18 ans, blonds, à la tête bien mieux faite que pleine. Et le tout avec une BO donc, qui est le parfait mix d'une époque, Blondie, ZZ Top, Donna Summer, Jermaine Jackson. Bref, voilà, c'est un film...
Chercher l'intrus.
Voilà. Enfin, bon. C'est un feel-good movie et c'est une manière de parler de la nostalgie qui est justement pas juste « Ah, c'était mieux avant » et ça prouve que c'est quand même un excellent cinéaste, bon. Voilà, même dans un film plus mineur.
Bon. Voilà, Everybody Wants Some sort demain.
Sort demain.
Très bien.
Bonne journée.
Sortira demain aussi un cinéaste qui a connu la sélection officielle de Cannes, Christophe Honoré, Les Malheurs de Sophie.
Oui, mais c'est un film qui a pas du tout le profil de ceux qui avaient pu être présentés à Cannes, qui, je pense, n'avait pas la prétention de rentrer dans cette cour-là, quoique il aurait tout à fait pu.
On en a vu d'autres. Hein.
Mais oui, non, mais il pâtit, disons, sur ce terrain-là, pense, un peu son statut de film tourné vers l'enfance. De films pour enfants, qui, comme le commente régulièrement depuis qu'il est en promotion, Christophe Honoré, est un type de film qui jouit d'un statut un peu ingrat, peut-être dans le cinéma français. Et donc c'est son premier véritable film adressé à un jeune public et qui du coup bénéficie évidemment de moyens que n'avaient pas du tout ces films plutôt tournés vers des adultes qui avaient pu eux se rendre à Cannes, qui va sortir demain sur quelques centaines de copies, je pense. Après-demain, pardon, mais non, demain.
Demain.
Vit grâce à son producteur-distributeur qui est évidemment plus important aussi, qui pèse beaucoup plus lourd que ceux des précédents. Et donc c'est une adaptation des Malheurs de Sophie, mais aussi se cache derrière le titre le couplage avec Les Petites Filles Modèles, qui donc de la comtesse de Ségur, que Christophe Honoré a bien connu, évidemment, comme lecteur en culotte courte.
Je me suis demandé où vous alliez avec cette phrase.
En culotte courte, mais aussi, j'imagine, fréquenté plus tard, parce que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il est également auteur de romans jeunesse, et ce depuis une vingtaine d'années.
C'est par là qu'on l'a connu, hein,
déjà,
Christophe
oui,
Honoré.
Mais disons que le public de ses films, le public des chansons d'amour,
ne le sait pas forcément.
Paris, a fortiori, le public d'Homme au Bain ne le sait pas forcément. C'est une adaptation qui, je trouve, faisait assez peur au regard de son enrobage marketing entre une affiche au-delà de la retouche de trop.
La bande-annonce fait très peur. Vous savez que j'aime pas les bandes-annonces, mais alors celle-là, elle fait peur.
De sa bande-annonce que j'ai regardée après, dont j'ai entendu parler en mal, globalement, et que je trouve ne rend pas vraiment justice au film. Et je trouve le film très réussi. Qu'il a peut-être pas plastiquement la grâce qu'on pouvait trouver dans certains de ces films parisiens et pour adultes comme les chansons d'amour par exemple, mais il y a une vitalité, il y a une capacité à ouvrir vraiment le champ de cette histoire, à confier la langue de la comtesse de Ségur à ses enfants, à les laisser à la fois leur mettre ces mots dans la bouche et en même temps à les laisser exister pleinement face à la caméra avec leur jeu, avec premier rang, une très jeune interprète donc de 5 ans qui joue Sophie, qui campe extrêmement bien, je trouve, cette boule d'énergie qui casse absolument tout autour d'elle, y compris, et ça c'est tout l'intérêt de la première partie du film, c'est toute la tension de la première partie du film, on a l'impression qu'elle va casser sa mère, qui est dépressive, et le film est vraiment à hauteur d'enfant et capte quelque chose, donc sans le nommer, quelque chose de ce que peut être la dépression, sans connaître ce mot, à hauteur d'enfant, d'une mère très fragile, et cette enfance qui est totalement menaçante et presque monstrueuse là-dedans, et dans son obstination à réitérer, non pas les malheurs, mais évidemment les bêtises. Et dans un second temps, évidemment, quand on vire dans la partie malheur, et donc on passe dans ce que raccorde Christophe Honoré des petites filles modèles, la manière dont cet enfant subit une mère marâtre qui est campée avec beaucoup de drôlerie et un certain enthousiasme par Muriel Robin, cet enfant là devient grave, mais elle ne devient pas pour autant une adulte qui est dans un corps d'enfant, elle devient peut-être plus butée, plus obstinée et plus orgueilleuse et plus peut-être plus avare de ses larmes que ne peut l'être un adulte, avec, je trouve, vraiment une très très belle tension. Et le film, dans son découpage, dans sa manière dont il malaxe la comtesse de Ségur, arrive à en tirer quelque chose qui raconte de moderne sur la famille. On dira pas forcément où ça va, mais entre cette belle-mère croqueuse de mari et les deux femmes qui se constituent l'horizon de Sophie, on se dit que à la fin, la comtesse de Ségur finalement raconte une histoire où le salut n'est pas forcément chez un papa et une maman.
Les malheurs de Sophie, Christophe Honoré sort demain. Un petit conseil lecture, Christophe Fiat a sorti il y a 2 ans maintenant, je crois, une biographie, je mets beaucoup de guillemets, de la comtesse de Ségur aux éditions Naïves, qui est un pur délice, qui peut peut-être se marier avec la vision de ce film. Dans quelques minutes, nous parlerons du fils de Joseph, de Jeanne Green, qui sort demain lui aussi sur les écrans. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, c'est la plasticienne Orlan, dont on peut retrouver la toujours très riche actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanteur, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Orlan et le cinéma. J'ai envie de connaître vos goûts, vos envies, la façon dont le cinéma a pu ou pas compte dans votre vie. Est-ce que c'est vrai que régulièrement avec nos invités, il y a une période de grande cinéphilie comme ça dans les années étudiantes. Est-ce que ça a été votre cas par exemple?
Oui, alors j'ai beaucoup vu du film en salle alors que je n'en vois plus du tout en salle.
Plus
actuellement,
du tout.
Non, parce que c'est trop de temps quoi. Donc je les vois à 3-4 heures du matin et je peux réécouter, revoir quelque chose en le refaisant passer, ouais. Parce que je l'ai mal perçu ou parce que je voudrais savourer tel moment, etc. Donc en fait, il y a eu un livre qui a été fait il y a très 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 longtemps. J'avais exposé à Hérouville et le titre était « Les 20 ans de cinéma et de publicité de Saint-Orlan ». Et donc, je me suis beaucoup intéressé au cinéma puisque j'ai fait quelque chose qui s'appelle « Le plan du film ». Ça part d'un texte de Godard, en fait d'une phrase, qui dit sur un film de Becker qu'il est magistral parce qu'il est en fait fabriqué complètement à l'envers et que c'est en quelque sorte l'envers du cinéma. Et donc j'ai pris cette phrase à la lettre Et je me suis mis à faire une œuvre qui vient en fait d'être exposée comme une rétrospective à Riga, qui rassemblait en fait tout ce que j'ai fait autour de cela. J'ai fait une grande performance à la Fondation Cartier, où j'ai fait une émission de télévision, enfin qui faisait semblant d'être une émission de télévision, où on montrait justement les affiches de cinéma en projection. Et il y avait des vrais acteurs et des vrais réalisateurs qui venaient parler du film et aussi du tournage. Et il y avait Dreyfus qui disait que c'était... Ça avait été un tournant dans sa carrière, que ça avait été extraordinaire, mais que vraiment le réalisateur était insupportable et qu'ils avaient failli craquer plusieurs fois, enfin bon, etc. Et puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'interventions, par exemple, en mettant des caissons lumineux dans les halles, où tout le monde cherchait effectivement quels étaient, parce qu'il y avait bien sûr des affiches de cinéma, quels étaient ces films et où ils étaient diffusés, alors qu'en fait, effectivement, ils n'existaient pas. J'ai fait aussi aux éditions Aldante un livret où il y a à la fois quelque chose qui ressemble à un DVD, mais en fait c'est la bande son du film qui n'existe pas, avec un texte de Quadrupani et la musique de Tanger que j'aimais beaucoup, et ma voix. Et donc, on peut avoir dans la main cette chose-là, et on peut croire que c'est un DVD alors que c'est une bande son. Et il y a effectivement un petit livret qui raconte toute l'histoire de ce plan du film. Alors, je ne vais pas tout raconter sur ce plan du film, parce qu'on peut peut-être parler aussi d'autres artistes. On peut parler
des films qui existent vraiment, Orlan, et que vous aimez, et qui comptent pour vous.
C'est vrai que souvent, ce que j'aime, c'est détecter des choses qui sont peut-être en dehors des salles de cinéma. Dernièrement, je reviens dans VSP et j'ai vu tout à fait ailleurs un film de quelqu'un qui s'appelle Georges Léon. Et c'était une grande projection dans une exposition. Je suis arrivé, en fait, il y avait un personnage qu'on pouvait vraiment, c'était vraiment la vérité sur ce personnage. Enfin, c'était quelque chose qui avait été tourné en pour de vrai, quelqu'un qui était comme en train de mourir ou d'avoir des convulsions. Et le plan d'après, c'était une femme qui paraissait vraiment souffrir beaucoup de la mort de cette personne. Mais tout à coup, cette femme, dans son jeu physique qui était extrêmement intéressant et auquel on pouvait vraiment croire comme de la douleur, petit à petit, partait dans une gestique qui devenait de la danse. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très intéressant.
Mais c'est vrai qu'un plan, une scène peut nourrir sans être dans l'intégralité. Et c'est ce que vous expliquiez aussi sur le côté pratique du visionnage aujourd'hui, du DVD, c'est-à-dire d'aller voir telle séquence, de revenir sur tel plan.
Eh oui,
vous avez cette pratique-là?
Ah oui, beaucoup, ouais. Beaucoup. De voir comme les plans se sont enchaînés. Moi, j'aime bien tout ce qui est construction. Donc, j'essaie de la détecter et de comprendre comment ça a été pensé. J'ai vu aussi un film très intéressant, mais qui est aussi une démarche plutôt du côté des arts plastiques, de Beltram au Palais de Tokyo, au vernissage du Palais de Tokyo, et avec Jean-Pierre Léo. Et bon, c'était une belle émotion de revoir... Jean-Pierre Léo, parce que j'ai beaucoup aimé bien sûr La Nouvelle Vague, mais qui n'aime pas, je pense qu'il y en a peu.
Et est-ce qu'il y a un film de chevet pour vous, Orlan, un film que vous avez revu au fil des années, un film qui compte particulièrement, pour une raison d'ailleurs, quelle qu'elle soit?
Il y a un film qui a été vraiment le premier film que j'ai vu, je pense, ça a été L'Horreur. Je crois que c'est mon père qui m'avait emmené voir Ben-Hur. Et pour moi, petite fille très petite, ce mec qui, ou les gens qui mouraient parce qu'ils poussaient les colonnes et tout le monde crevait en étant coincé dans les pierres avec du sang qui giclait de la bouche, tout ça. Je ne sais pas encore comment j'ai pu continuer à regarder des films après cette sensation abominable. Ben-Hur, La Grande Bouffe, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres, enfin moi. Il y a les frères Dardenne, il y a Ozon, il y a des choses que j'aime beaucoup. En fait, il y a un film aussi que j'ai énormément aimé parce que j'ai voyagé beaucoup, beaucoup, beaucoup en Afrique très jeune et d'une manière très aventurière sur les camions de sel en faisant du stop toute seule dans une Afrique tranquille où on pouvait voyager même en tant que femme seule en Afrique sans problème. Et donc, le film qui m'a beaucoup touché ensuite, c'est le Rouge. Cocorico, Monsieur Poulet.
Ah.
Cocorico, Monsieur Poulet, c'est extraordinaire.
On pourrait chanter vraiment... ensemble. Hein. Cocorico, Monsieur Poulet.
Mais ça donne toutes les clés. Et puis ça donne toutes les clés sur l'Afrique. Et vraiment, c'est extraordinaire. Et c'est tellement drôle. Et c'est tellement vrai. On n'en rajoute pas. C'est la vérité sur l'affaire. Et il est fantastique, ce Jean Rouge. Vraiment extraordinaire.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mardi soir au cinéma avec le nouveau film de Jane Green, Le fils de Joseph, un cinéaste hors norme, également écrivain, à qui on doit notamment comme film Le Pont des Arts ou La Sapienza, qui revient avec ce film découpé en chapitres au titre biblique pour raconter l'histoire de Vincent, un adolescent que sa mère, Marie, élève seule, ayant toujours refusé de lui dire qui était son père.
J'ai une question à te poser.
Oui.
Qui est mon père ?
Tu sais déjà la réponse. Je te réponds aujourd'hui comme toujours. Tu n'as pas de père.
Qui est Oscar Parmenor ?
Où as-tu trouvé ce nom ?
Ce m'est un grand honneur d'avoir publié ce chef-d'œuvre qu'est La mère prédatrice.
Je suis Violette Trefouille. Je commets des critiques dans l'ascenseur littéraire. C'est Vincent Dumarey que vous allez publier à la rentrée.
Ah oui, en effet, c'est un nouveau Céline.
Viens. Vis-tu avec tes parents ?
Avec ma mère.
Et avec ton père ?
Je n'en ai pas. Puis-je vous dire tu ?
Oui.
Aimes-tu les gens qu'on appelle les bobos ?
Je les déteste.
Moi aussi.
Dites-moi, Oscar, on est à la closerie ou au flore ?
On est au paradis des écrivains.
Ah ! Je ne sais pas comment vous vous êtes rencontrés, mais depuis peu de temps, j'ai l'impression que Vincent va beaucoup mieux.
Résister.
Le fils de Joseph de Jane Green sort demain sur les écrans. Le premier à en parler ce soir est Julien Gester.
Alors mine de rien, j'avais réalisé ça tardivement en le voyant. C'est le premier film réalisé par Eugène Green en France depuis 12 ans. Enfin, il a quelques courts-métrages entre-temps. Eugène Green, qui est très soucieux d'exactitude lexicale, préfère le terme de mini-film à court-métrage. Mais donc, c'est son premier film, par long-métrage, depuis le Pont des Arts, en France. Entre-temps, il y a eu un moment d'exil portugais avec la religieuse portugaise. Il y a eu un exil italo-suisse avec La Sapienza, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps. Jusque-là, il avait plus de difficultés à enchaîner les films. On l'a vu l'année dernière, il me semble, que je trouvais un film plutôt très réussi, plus peut-être que le segment portugais qui me paraissait un peu moins inspiré. Et il revenait à, il y avait quelque chose lors d'un retour aux sources, jusqu'à sa carrière hantée cinématographique dans ce film-là. La rencontre avec de nouveaux acteurs, notamment Fabrizio Ronzione, qu'on retrouve dans son nouveau film, Le fils de Joseph. Et je trouvais vraiment une grâce, un degré d'inspiration qui était celui de ses tout premiers films que j'aimais beaucoup, Toutes les nuits, Le monde vivant, et voilà. Et en fait, en revenant en France, Jane Green retrouve en quelque sorte un peu les choses là où il les avait laissées, c'est-à-dire sur le terrain qui pourra, pour ceux qui observent son cinéma un peu à distance, paraître un peu curieux, mais celui de la farce, de la satire social en quelque sorte, et donc ici on a affaire évidemment à on l'a entendu un petit peu dans la bande annonce à quelque chose, une moquerie de notamment des milieux littéraires que Jane Green a un peu fréquenté en publiant un certain nombre de romans et de recueils de nouvelles ces dernières années. C'est pas la partie, je trouve, la plus fine du film. Il me semble qu'il y a quelque chose d'assez univoque et justement un peu, pour réemployer ce mot, démonstratif, souvent dans ces séquences-là, c'était déjà un peu ma réserve sur Le Pont des Arts, qui faisait que ce qu'il peut y avoir de très singulier, de très gracieux, qui échappe absolument au psychologisme, au naturalisme, et qui libère d'autres choses chez les acteurs, qui libère d'autres choses plastiquement, qui libère d'autres choses dans ce qui est traversé plan, et qui fait circuler des références mythologiques, biblique, en liberté, dans un cinéma qui est beaucoup plus ouvert qu'il n'en a l'air, justement, à partir de ces dispositifs formels, que tout ça ploie un peu sous le poids de ce qu'il faut saisir, ce qu'il faut attraper de la farce. Et pour autant, je trouve que le film est très drôle par endroits, notamment au début, dans des scènes entre adolescents, enfin, notamment une histoire de d'affaires juteuses de vente de sperme en ligne.
On vous laisse la responsabilité du choix de vos mots.
J'espère. Qui a l'air de dégoûter au plus haut point ce personnage principal, tout à fait prostré, qui semble assez intéressé par une seule chose, c'est retrouver un père absent. Et évidemment, il va se mettre en quête de lui et en trouver un. Voilà. On ne dira pas lequel. Il me semble que, voilà, en contrepoint de la farce qui n'est pas toujours fine, il y a ces scènes-là qui sont très drôles, qui sont très inspirées, inattendues, parce qu'elles passent au filtre de l'écriture cinématographique de Green. Mais surtout, lorsqu'elles sont incarnées et qu'elles sont portées par des acteurs qui se coulent pleinement dans ce dispositif-là, qui se savent regarder comme ils ne le sont jamais. Et donc ça passe par Fabrice Rondjian, ça passe par Natacha Régnier, ça passe par Mathieu Amalric dans les scènes peut-être les moins grotesques, notamment dans son bureau. Il y a une scène très très drôle où il ne se sait pas épié par quelqu'un sous son canapé, et on échappe là à la satire, et on est dans une pure comédie de situation, une a priori éculé, mais la manière dont tout cela est conçu, agencé, filmé, écrit, renouvelle, je trouve, pleinement ça, et ça donne une vraie légèreté à un ensemble qui est par ailleurs chargé de traverser de tout un tas de références et de signes qui peuvent tout à fait nous échapper et sans que le film perde de son charme.
Thierry Chaise sur Le Fils de Joseph.
Moi, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir. C'est une très bonne semaine, mais je trouve qu'il y a... que c'est sans doute presque son film le plus accessible par ces moments-là, qui ne sont pas forcément les plus réussis, mais on a l'impression que des gens peuvent rentrer là-dedans et qu'il y a quand même toujours chez lui ce plaisir, c'est de réécouter la langue française à travers la manière dont il l'a fait dire à ses comédiens. Comédiens qui, je suis en décor avec vous, Julien Jester, sont, moi je trouve, remarquables parce que tout le monde ne peut pas jouer ça, y compris le jeune comédien qui fait ses débuts, Victor Ezenfis, que je trouve... très juste. Et donc, moi non plus, la partie farce n'est pas celle que je préfère, mais je trouve, on parlait tout à l'heure de deux films en un chez Fejria Deliba, il y a aussi ça. Et puis il y a l'autre film qui est plus intéressant, c'est une défense de la spiritualité de l'art contre la vulgarité du commerce, en gros, mais tout ça en effet avec quelque chose de toutes ces références qui pourraient être lourdes ou d'un seul coup appuyées. Baigne dans quelque chose qui est pour moi on rentre dans un pays quand on rentre chez Eugène Green, et je trouve qu'on est attiré par énormément de choses différentes, la farce en faisant partie, et qu'il y a quelque chose qu'on ne voit et qu'on n'entend nulle part actuellement dans le cinéma français. Et je trouve que essayer en plus de ça de mettre de la farce plus que jamais, c'est tenter quelque chose qu'il n'a sans doute pas fait, qui n'est pas toujours réussi, mais qui ne renie pas l'essentiel, qui est, pour moi, cette manière de filmer les choses, cette manière de faire dire les choses, cette manière de raconter ainsi, comme peu de gens peuvent le faire.
Ouais, alors j'ai plus de mal avec ce film, j'avoue, parce que j'aime un des deux films, mais pas les deux. Et je trouve qu'effectivement, la distanciation du jeu, elle produit des effets intéressants, effectivement, notamment... avec ce jeune camarade de Vincent, voilà, dans cette scène dont vous avez expliqué le principe. Mais sur près de deux heures, d'une part, le procédé, je trouve, quand même révèle ses limites, d'autant plus qu'effectivement, il y a cette dimension farcesque qui, là, est pour moi vraiment très, très, très ratée. Par exemple, il y a Marianne Maideros, qui est quand même une actrice magnifique, mais qui n'est que dans cette partie-là, et du coup, je pense qu'elle est quand même gâchée. Son talent est gâché, mais c'est juste pour donner une idée quand même à nos auditeurs de la lourdeur de la chose, c'est qu'on a quand même droit à une apparition de, je sais plus son prénom, je crois que c'est Lucille Santombeau, pour faire Amélie Nothomb. Alors Santombeau, Nothomb, vous avez compris, Nothomb, vous avez compris la subtilité du jeu de mots, mais enfin, c'est pour dire, voilà, où on en est quand même, pour moi, des scènes qui sont tout à fait inutiles, ratées, voilà. Et c'est vrai que par ailleurs, c'est vrai que l'argument est mince, c'est pas le problème, mais on évoquait tout à l'heure les surprises ou les justement les chemins de traverse que peut prendre Fejria de Liba. Là, au bout de deux minutes, le film, il est quand même de Jane Green, pour moi, absolument tracé, sauf qu'il va mettre 1h55 ou 58 à arriver à sa fin. Mais scène très belle et complètement inutile. Il retrouve ses camarades de jeu, Benjamin Lazare, Louise Moiti et Vincent Dumestre, pour une séquence de musique baroque dans une église. Très bien, mais s'il veut faire un clip pour eux, je pense qu'il peut le mettre ailleurs. C'est pas là que la sublimation ou la transcendance va apparaître. Je pense qu'il manque, comme on dit d'un livre, qu'il manque d'un éditeur. Là, il manque soit d'un producteur, soit d'un co-scénariste.
Deux, c'est les frères Dardenne.
Sauf qu'ils sont, ils n'ont pas fait un travail de production, à mon avis, au sens noble de ce terme-là, et que l'écriture est réalisée seule, ce film. Je trouve que, il se fait plaisir. Moi, il ne m'a pas fait très souvent plaisir dans ce film. Contradiction de Julien Gester.
Non, mais je ne suis pas si loin de vous, comme je le disais. Je suis beaucoup moins convaincu par la partie satire.
Elle prend de la place.
Qui est tellement unidimensionnelle, il me semble. Elle donne tellement de manière univoque ce qu'il faut penser de ces gens et ce qu'il faut y reconnaître. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, je crois qu'à Berlin, j'ai vu passer, où le film était présenté, beaucoup de papiers de la presse anglo-saxonne qui adoraient le film et qui trouvaient que c'était en effet, comme vous le disiez Thierry Chess, son film le plus accessible, etc. Probablement aussi parce que le film, pour eux, n'en voit pas du tout ces signaux de qui va-t-on reconnaître, des milieux parisiens, du milieu littéraire, etc. Je trouve que ce que vous décrivez de la prévisibilité du film, c'est lui faire un faux procès dans le sens où tout est donné dès le titre. On sait qu'on va assister le fils de Joseph, on sait qu'on va assez vite assister à une nativité en quelque sorte reconstituée et que ces histoires de filiation, on devine très vite aussi dès lors qu'on rencontre un personnage qui s'appelle Joseph qui apparaît à
l'heure. Mais elles prennent un temps fou, c'est ça mon problème.
Absolument, mais vous savez que comme toujours dans le road movie, c'est pas la finalité, c'est le chemin qui
importe. Ouais, mais là, le chemin m'a pas plus intéressé.
Tous les détours que prennent le récit, je suis assez d'accord avec vous, ne me blesse pas. Je trouve que malgré tout, il y a quelque chose de beaucoup plus tenu dans l'autre film, puisque tous les films sont bipolaires.
Oui. Bon, Antoine Guillot est-il bipolaire en quelques secondes sur ce film?
Écoutez, moi, ce film, comme souvent chez Jane Green, c'est un cinéma que j'admire sans y adhérer. C'est-à-dire que son propos, parfois serré, on pourrait dire au pire réactionnaire, en tout cas assez conservateur, n'est pas celui que j'aurais a priori. Mais pour le coup, moi, cette alliance de grotesque et de spirituel, ce côté Jean-Pierre Mocky janséniste, je trouve que c'est l'unité de ces deux films que vous semblez départager qui, pour moi, fait l'intérêt dedans. Je trouve, dans ce côté almanavermo des jeux de mots et des blagounettes, je le trouve finalement assez drôle. Moi, je me suis bien amusé. Et la question de la grâce telle qu'il la pose, la frontalité, ses plans cordeau que je trouve extrêmement beau, pour moi, font de lui un vrai cinéaste chrétien. Alors pourquoi pas, mais je trouve que dans le genre, il le fait très bien.
Je préfère revoir le Port-Royal de Vincent Dutre, hein, dans le même esprit.
Dans lequel jouait Jane Green, d'ailleurs.
Oui, mais qui me proposait autre chose. En tout cas, on a entendu qu'il y avait tas de raisons d'aimer le film de Jane Green, le fils de Joseph. Elles sont différentes autour de cette table, mais ça fait quand même quelques raisons accumulées. Il sort demain, bien sûr, sur les écrans.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et on va conclure sans liaison, parce que ça va aller plus vite, le jeu de la dispute. Retour sur le jeu d'hier au soir, Antoine Guillot.
Qui vous a fait gagner des invitations pour l'exposition Napoléon à Sainte-Hélène, la conquête de la mémoire au musée de l'armée à Paris. Je vous avais demandé quel était le nom de la maison où Napoléon était mort sur l'île de Sainte-Hélène. C'était bien sûr Longwood House.
Ce soir, des coffrets contre-histoire de la philosophie, coédités par France Culture et l'Université Populaire de Caen. Ce sont bien sûr les coffrets Michel Onfray.
Alors Michel Onfray ne fait pas que des disques et des conférences, il fait aussi des bandes dessinées. À quel philosophe Michel Onfray a-t-il consacré une bande dessinée sur des dessins de Maximilien Leroy?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Julien Gester, Thierry Chaise et Antoine Guillot. Merci à l'équipe de la dispute, Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Le Duo. Prise de son assurée ce soir par Clotilde Thomas, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Corinne Rondeau et Jean-Max Collard, à notre affiche Picasso Sculpture au musée Picasso, Araki au musée Guimet. Nous évoquerons aussi l'exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon, autoportrait de Rembrandt au selfie. Et puis l'exposition Iris Vandongen à la galerie Bugada Carniel. On retrouvera bien sûr une revue de presse culturelle signée Antoine Guillot, les choix de la plasticienne Orlan et un nouveau cadeau à gagner. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15 hors champ par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.